Bonjour. Des ONG à l'Elysée, à la veille du G7, les associations de défense de l'environnement font part de leurs propositions au chef de l'État. Une rencontre que certaines d'entre elles ont boycottée avant peut-être de boycotter le sommet lui-même. Un sommet qui pourrait évoquer la situation en Amazonie, c'est ce que demandent la France et l'Allemagne face aux incendies qui ravagent la forêt brésilienne. On en parle avec notre invitée Catherine Aubertin, économiste de l'environnement. Un sommet du G7 qui complique la vie forcément aux habitants et aux touristes de Biarritz. Pas facile d'entrer dans la zone rouge, comme a pu le constater Mathilde Deuimy, qui a essayé ce matin d'atteindre la plage. Dans ce journal également, l'Université des Insoumis, sans Jean-Luc Mélenchon, une polypilule qui combine plusieurs principes actifs testés à grande échelle, elle permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Et puis, il refusait jusqu'ici les plateformes de streaming. Jean-Jacques Goldman a cédé, toute sa discographie est maintenant disponible sur Deezer ou Spotify. On n'échappe pas au streaming. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
On n'échappera pas au beau temps et c'est tant mieux, beaucoup de soleil aujourd'hui.
Exactement, quasiment partout. Un bémol quand même pour la Corse avec des averses et des orages. Des averses orageuses attendues aussi des Alpes à la Côte d'Azur et à la Provence. Température en hausse, 24 à 28 degrés près de la Manche et 27 à 34 ailleurs.
Et ce week-end ?
Alors soleil, un peu moins d'orages vers l'extrême sud-est et des températures en hausse. Jusqu'à 35 degrés attendus sur le sud-ouest et en basse vallée du Rhône.
Le bulletin météo en fin de journal, bien sûr. C'est un peu le G7 avant le G7 à l'Elysée en ce moment même. Une rencontre entre Emmanuel Macron et les ONG, du moins celles qui n'ont pas boycotté le rendez-vous. Plusieurs d'entre elles, comme Greenpeace et Oxfam, veulent dénoncer leur mise à l'écart des travaux du G7, dont elles sont tenues à distance. Et malgré un geste de l'Elysée qui a promis de leur faciliter les accès, on est loin du G7 inclusif que certaines associations espéraient, comme Greenpeace, qui ne croit pas aux promesses d'Emmanuel Macron. Le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, au téléphone de Béatrice Duguay.
Ça fait déjà un moment qu'on dénonce ce décalage entre les promesses, les engagements d'Emmanuel Macron, notamment à l'occasion de sommets internationaux comme ce G7, mais d'autres sommets passés, et la réalité des mesures concrètes prises par ce gouvernement en faveur ou en défaveur plutôt de la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, ça se manifeste à travers cette mise à l'écart quelque part de la société civile dans les préparatifs, dans la construction et dans un dialogue serein et apaisé à l'occasion de ce G7. Il n'a pas envie que des voix critiques s'élèvent pendant qu'il va parader avec les autres dirigeants politiques du monde entier. Il a envie de maîtriser la communication autour de ce G7 et qu'il n'a pas envie que des sons de cloche différents puisse faire passer des messages, notamment quand il est chez lui, en France, à accueillir les autres dirigeants du monde entier.
D'autres ONG qui, au départ, avaient annoncé ne pas vouloir se rendre à l'Elysée ont finalement fait le choix d'y aller, parce qu'au-delà de la forme, il y a des sujets de fond dont il faut pouvoir débattre. Ils iront donc à l'Elysée, mais peut-être pas à Biarritz, ce qu'explique le co-directeur de WWF France, Pierre Canet, invité ce matin de France Info.
Depuis des semaines, il y a des discussions qui sont engagées avec les ONG environnementales pour un vrai dialogue au cœur du G7. Et finalement, l'Elysée nous a répondu hier qu'on aurait des accès supplémentaires qui avaient été demandés depuis des semaines. Alors maintenant, chaque organisation du réseau Action Climat décidera oui ou non de participer, mais maintenant c'est un peu tard, puisque pour s'organiser, vous en doutez bien, on a entendu les niveaux de sécurité très élevés sur Biarritz. Ça sera difficile de s'organiser, mais ce qui nous intéresse face à ce bazar, c'est de ne pas détourner le regard du sommet. Et ce sommet, il est très important parce que les membres du G7 ont une responsabilité en tant que grandes économies, pays les plus industrialisés du monde. Le WWF estime à peu près à 3,4 planètes la consommation de ressources naturelles de ces pays. Donc c'est bien dire qu'au-delà de ces enjeux logistiques, de ces problèmes d'invitation de la société civile au sein du G7, il y a des vrais sujets qui sont au cœur de nos actions.
Et parmi ces sujets, il y a l'Amazonie, notre maison brûle. On se souvient de la formule utilisée par Jacques Chirac, c'était au sommet de la Terre. C'est la formule qu'a reprise Emmanuel Macron dans son tweet sur la forêt amazonienne, le poumon de notre planète, qui est aujourd'hui en feu. C'est une crise internationale, ajoutait le chef de l'État, en appelant le G7 à mettre l'Amazonie à l'ordre du jour de ses discussions. Emmanuel Macron, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle aujourd'hui de l'Amazonie comme d'une urgence, ce qui a suscité la colère de Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui lui dénonce une atteinte à la souveraineté du Brésil, qui ne fait pas partie du G7. Alors Bertrand Galichet, vous êtes à Biarritz, où les délégations des sept pays les plus riches de la planète vont arriver tout au long de la journée. Est-ce que l'Amazonie a une chance d'être inclue à l'ordre du jour, sachant qu'elle n'est sans doute pas un sujet pour Donald Trump?
Oui, en effet, l'opposition viscérale de Donald Trump à tout ce qui relève des sujets climatiques et environnementaux avait conduit la France à ne pas placer la barre trop haut dans ce G7 afin d'éviter une rebuffade de la part des États-Unis. Le développement spectaculaire des incendies en Amazonie va certainement changer la donne en raison de la mobilisation des ONG et de l'impact sur l'opinion mondiale. On verra ce week-end si l'imprévisible dirigeant américain infléchit ou pas sa position. En tout cas, Angela Merkel va contribuer à la mobilisation, puisqu'elle parle ce matin d'une situation d'urgence aiguë en Amazonie qui doit être discutée au G7. Son porte-parole précise que la chancelière soutient complètement Emmanuel Macron sur ce point. Et la réaction virulente du président brésilien dénonçant une mentalité colonialiste de la France n'y changera rien. Effectivement, le Brésil n'est pas convié ici à Biarritz, mais parmi les invités hors membres du G7 figure un autre pays d'Amérique du Sud, le Chili, qui pourrait se sentir concerné. Et plusieurs participants au G7, comme le Canada, sont en pointe sur les questions environnementales.
Bertrand Galichet à Biarritz, invité de ce journal, Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche et de développement. Bonjour.
Bonjour.
Alors quand Emmanuel Macron et Angela Merkel disent qu'il s'agit d'une urgence internationale, ils ont raison ?
Ah, ils ont raison, enfin ils en sont du moins conscients et c'est important qu'ils s'occupent des questions environnementales. Mais peut-être avant de faire le procès de Jair Bolsonaro, aurait-il pu balayer devant leur porte ? C'est-à-dire que ces feux en Amazonie actuellement, une des principales raisons, c'est bien le dérèglement climatique qui les exacerbe.
Ce ne sont pas les défrichements liés à la déforestation ?
Certes, ce sont les défrichements liés à la déforestation, c'est aussi dû à la sécheresse, c'est aussi dû à l'impunité entraînée par les politiques de Jair Bolsonaro. Mais pour moi, la première chose, c'est vraiment le dérèglement climatique qui amplifie les situations de sécheresse et la fragilité des forêts. Ça fait longtemps que les forêts tropicales ne sont plus les pluies de carbone et justement le poumon vert, qu'on n'arrête pas cette expression qu'on n'arrête pas d'utiliser depuis un certain temps.
Alors les accusations portées par Jair Bolsonaro contre les agissements criminels des ONG sont évidemment sans fondement, mais y a-t-il un lien de cause à effet entre ces événements, ces incendies et la suspension des financements alloués à la préservation de la forêt amazonienne et surtout l'assouplissement des normes environnementales par Bolsonaro ?
Ah, il est sûr que la politique de Jair Bolsonaro donne un feu vert à toute destruction de l'environnement. Toutes ces politiques se font contre les normes environnementales et les droits sociaux.
Beaucoup d'argent venait de l'étranger hein, pour l'Amazonie parce qu'elle est elle est le poumon de la planète. Certains pays comme l'Allemagne par exemple annoncent qu'ils suspendent leur financement à cause justement de la nouvelle gouvernance du fonds de préservation de l'Amazonie. Ils ont raison là aussi d'agir de la sorte.
Bah, l'Allemagne et la Norvège sont les gros contributeurs du fonds amazonien. Ils ont donné plus de 2 milliards, hein, enfin ou du moins des promesses, plus de 2 milliards d'euros pour des actions en faveur de l'Amazonie. Et paradoxalement, ces financements passaient par les agences gouvernementales, c'est-à-dire allaient à l'État brésilien. Donc c'est assez important qu'on s'aperçoive que ces financements fonctionnaient aussi pour le Brésil.
Alors rappelons que les feux de forêt sont en forte augmentation au Brésil cette année, hein, 80% de feux en plus que l'année dernière. La forêt amazonienne est en danger, Madame Aubertin, mais à quel point exactement ?
Elle est en danger, elle est déjà bien en danger. On pensait récemment que le point de basculement se ferait vers 40% de défrichement, et là on est à 20%, et déjà on se rend compte qu'on est entré dans des cycles de rétroaction qu'on ne domine plus entre la crise du climat et la crise de la végétation et de la forêt amazonienne.
Un tout dernier mot, que pourrait faire le G7 ?
Bah, Le G7 pourrait se balayer devant sa porte, comme je le disais, c'est-à-dire il y a une certaine incohérence à s'indigner devant les forêts d'Amazonie qui ont lieu au passage tous les ans à la même époque, hein, c'est pas très nouveau, pendant plusieurs années c'était au moins aussi important, donc il devrait également se rendre compte que il est important de prendre des mesures pour la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire peut-être arrêter de signer des contrats de commerciaux qui remettent en cause justement la lutte contre le changement climatique.
Catherine Aubertin, économiste de l'environnement de l'Institut de recherche et de développement. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 13h. Des manifestations pour l'Amazonie sont annoncées justement aujourd'hui à Sao Paulo et Rio. Le mouvement de la jeune Suédoise Greta Thunberg appelle à manifester devant les ambassades et consulats du Brésil partout dans le monde. Avant d'accueillir les ONG, en ce moment même, le chef de l'État a reçu tout à l'heure le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, pour essayer d'avancer sur l'accord nucléaire de 2015, dont les États-Unis se sont retirés, mais que la France et l'Europe voudraient sauver. En Russie, à peine sorti de prison, Alexei Navalny, opposant principal à Vladimir Poutine, appelle à l'intensification de la contestation. Après avoir été condamné à 30 jours de prison, il dénonce aujourd'hui un régime qui n'a plus de soutien et vit dans la peur. Et puis une solution, enfin, pour les 356 migrants de l'Ocean Viking, le bateau humanitaire d'SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières va pouvoir accoster à Malte, d'où ces passagers repartiront pour différents pays, dont la France, qui se dit prête à en accueillir près de la moitié, 150. Annonce faite tout à l'heure sur Twitter par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Et pendant ce temps à Biarritz, le sommet du G7, c'est demain soir jusqu'à lundi, dans une ville, on l'imagine, hyper sécurisée. On l'a dit, 13 200 policiers et gendarmes sont mobilisés, sans compter les unités d'intervention comme le RAID, le GIGN ou la sécurité publique et les renseignements. Pas facile dans ces conditions d'habiter Biarritz ou d'y passer ces derniers jours de vacances, comme a pu le constater ce matin Mathilde Dehimi en essayant de se rendre à la plage.
Les GPS sont à jour.
Danger signalé sur votre trajet.
Et les grand temps de se garer maintenant. Nous approchons de la zone de protection où seules les voitures des habitants qui ont un badge peuvent rentrer. Nous sommes à 1,5 km de la grande plage et de la mairie.
Moi, je m'apprête à questionner la police qui est au rond-point, qui m'a été donnée comme fermée hier par la mairie, qui apparemment est ouverte.
André s'y perd déjà.
Si je veux rentrer chez moi, il faudra que je passe en sens interdit.
Chacun cherche son chemin.
Vous cherchez quoi comme véhicule ?
Le bus.
Pour les Biarros, c'est la journée de la marche.
Mais j'ai voulu aller du côté de la gare, il faut déjà 3 quarts d'heure. Si on allait au centre-ville, on marche aussi. Tout le temps, on marche.
Au bout d'une avenue, un premier point de contrôle. Même les piétons, badge autour du cou, ne peuvent emprunter que certaines artères.
C'est fermé. Même pour les piétons, c'est ça le problème.
Pauline a lâché son scooter. Elle doit rejoindre son travail en cœur de ville.
Ma pièce d'identité et mon badge, j'ai quand même transpiré.
Ça, c'est la première étape.
La deuxième étape, on verra tout à l'heure. On va au paradis, là.
Un deuxième contrôle, puis un troisième. Sa collègue de la boulangerie attend les clients.
D'habitude, à cette heure-ci, on a déjà 50 à 60 clients. C'est le désert complet.
Les démineurs ouvrent les bouches d'égout. Ceux qui sont rentrés enfin dans le périmètre peuvent aller faire leurs courses. Les magasins sont ouverts, mais sans passer par la grande plage, totalement inaccessible. Biarritz, Mathilde Dehimi, France Inter.
Et Mathilde ne sera donc pas allée à la plage. Ce devrait être aussi l'un des sujets de ce G7, un sujet récurrent des sommets internationaux, la lutte contre la fraude fiscale. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, le dit aux Échos ce matin. On a fait des progrès depuis les Panama Papers. Les équipes de Bercy ont passé au peigne fin les données révélées par le consortium international des journalistes, parmi lesquels figuraient 500 dossiers concernant des Français. Une quinzaine de plaintes ont été déposées pour l'instant. D'autres suivront. Par ailleurs, ajoute Gérald Darmanin, les plateformes en ligne comme Amazon ou Alibaba se verront bientôt imposer de collecter la TVA. Enfin, le prochain projet de loi de finances permettra de faire payer aux dirigeants des grandes entreprises françaises leurs impôts en France, ce qui semble la moindre des choses, Frédéric Saïs, mais plus facile à dire qu'à faire.
Oui, c'était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron en décembre dernier. Nous étions alors au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes.
Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice.
Cette proposition sera donc traduite par une loi, plus précisément un article de la loi de finances 2020 débattu cet automne au Parlement. Dans le détail, l'obligation de payer ses impôts en France concernera les hauts dirigeants de toutes les entreprises dont le siège social est en France et qui réalisent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires mondial. Quand on parle des hauts dirigeants, il s'agit des présidents de conseils d'administration, direction et des directeurs généraux, quel que soit par ailleurs leur pays de résidence. Cela peut poser effectivement des difficultés. Par exemple, si vous avez un directeur général établi en Amérique du Nord pour le marché américain, alors que le siège social de l'entreprise, lui, est bien en France, dans ce cas-là, précise Bercy, il y aura des discussions entre les deux administrations fiscales. Mais cette loi, c'est une loi que l'on pourrait surnommer la loi Ghosn, du nom de l'ancien patron de Renault-Nissan. Les révélations sur sa situation fiscale à l'automne dernier avaient contribué à nourrir les mécontentements. L'entourage du ministre Gérald Darmanin reconnaît d'ailleurs que cette loi ne concerne que peu de cas, mais des cas emblématiques.
Frédéric Saïs, en politique, la suite des universités d'été, les Insoumis notamment sont à Toulouse. Sans Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, le chef de file du mouvement fait une tournée de ses amis d'Amérique centrale et du Sud. Il a notamment rendez-vous avec l'ancien président brésilien Lula dans sa prison. Bref, le prof ne sera pas dans l'amphi de l'université d'été où les débats, Laurence Perron, seront moins ou seront plus, les deux à la fois.
Ils seront comme ils seront et finalement ça n'est pas si grave. Adrien Quatennens, le nouveau coordinateur du mouvement, a évacué la question directe en prononçant, et là c'est très nouveau, le gros mot de transmission.
Il y en a certains qui pensaient que ça ne résisterait pas à la personne de Jean-Luc Mélenchon, et bien il a fait la démonstration lui-même que si, quand il dit des plus jeunes d'entre nous, et qu'il vous répond en vous disant, vous pensiez qu'une fois que vous serez débarrassé de moi, vous serez débarrassé de ce que nous sommes, mais non, avec eux vous en prenez pour 50 ans, il a raison, et aujourd'hui dans ces amphis, vous le constatez vous-même, vous êtes là, lui il est absent, vous n'y êtes pas habitué, nous non plus, mais néanmoins vous voyez que ça fonctionne. Et entendez qu'une transmission, ça ne veut pas dire disparition de Jean-Luc Mélenchon du paysage, il est toujours là, et il joue son rôle, et nous on est fiers qu'il le joue.
Alors parmi les invités, des gilets jaunes dont Jérôme Martinez, gros chantier violence policière prévu ici, et même des députés du parti présidentiel, notamment Jean-Baptiste Djebari, le député La République En Marche de la Haute-Vienne, pas exactement raccord avec les options stratégiques défendues ici. Et finalement, c'est avec des alliés putatifs que les choses ont l'air le plus difficiles, la gauche notamment, les écolos, qui tiennent leur journée d'été à quelques stations de métro d'ici. Hier, il y a eu un apéro fraternel organisé, mais on sent bien que ça n'est pas gagné pour des alliances aux prochaines municipales.
Les récentes déclarations de David Cormand notamment sur la question de la compatibilité ou de la compromission possible avec le modèle capitaliste pour solder le défi climatique nous paraissent beaucoup plus limpides que d'autres propos de responsables d'Europe Écologie Les Verts et notamment ceux d'Yannick Jadot.
Voilà la fameuse question du ni droite ni gauche, on attend la réponse de Yannick Jadot ce soir à Toulouse, mais la fédération populaire que les insoumis défendent, c'est sûr, ne sera pas topée ce week-end à Toulouse.
Voilà, Laurence Perron avec Marc Garvenès. À Rennes, pas de remise en liberté pour Vincenzo Vecchi, l'ex-activiste italien qui faisait l'objet de deux mandats d'arrêt européens, avait été interpellé le 8 août dans le Morbihan. La chambre d'instruction de la cour d'appel a donc rejeté la demande de mise en liberté présentée par ses avocats, en ordonnant toutefois un supplément d'informations et une étude de faisabilité d'assignation à résidence. Allez, imaginez, pour ceux qui souffrent d'hypertension et de cholestérol par exemple, imaginez une seule pilule à prendre au quotidien plutôt que deux ou trois, s'il faut y ajouter de l'aspirine. Une super pilule dont la composition pourrait varier selon les pathologies. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle a été testée à grande échelle, Daniel Messager, et les conclusions publiées dans la revue médicale The Lancet sont encourageantes.
Oui, et on parle là de polypiles, pilules multiples. Le principe de mélanger plusieurs de ces actions que vous venez de citer date d'une vingtaine d'années. Cette nouvelle étude que publie The Lancet a été réalisée à grande échelle, c'est ça? C'est la première fois. 7000 participants en Iran entre 50 et 75 ans et la plupart, 90%, n'avaient pas d'antécédents cardiovasculaires. Et donc, le fait de prendre ce cocktail a réduit le risque d'accident vasculaire majeur. On parle là d'infarctus, d'AVC, entre 34 et 40% avec des résultats identiques chez les hommes et chez les femmes. Quels seraient les avantages à grande échelle de l'utilisation d'un tel médicament? D'abord, une meilleure observance. Prendre une seule pilule au lieu de trois, évidemment, c'est plus simple. Ensuite, un coût moins élevé, en particulier pour les pays à moindre revenu. À noter toutefois que dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, il n'y a pas unanimité. Un certain nombre d'études ces dernières années minimisaient le rôle des statines, utilisées pour faire baisser le cholestérol, et de l'aspirine, utilisée pour empêcher la formation de caillots, qui entre donc dans la composition de cette super pilule. Il faudra mener d'autres essais pour éventuellement généraliser, mais on constate toutefois qu'aux États-Unis, la mortalité par maladie cardiovasculaire, après 20 ans de recul, eh bien aujourd'hui, elle stagne.
Daniel Messager. Il est toujours l'un des plus gros vendeurs de musique, également parmi les personnalités préférées des Français, mais ça c'est autre chose. Jean-Jacques Goldman était aussi l'un des derniers irréductibles anti-streaming. C'est fini.
Château, il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles, au noble sang.
Voilà, sa discographie est depuis ce matin disponible sur les plateformes comme Deezer ou Spotify. Une petite révolution, Corinne Pellissier.
Eh bien, le dernier en France à avoir cédé avant lui, c'est Francis Cabrel en 2017. Parce qu'aujourd'hui, le streaming est devenu incontournable dans la consommation de musique en France. C'est même un moteur. Pour vous donner une idée, sur les 6 premiers mois de l'année, plus de 33 milliards de titres qui ont été écoutés en France. On voit mal aujourd'hui comment un artiste pourrait s'en passer. D'autant que dans le cas de Jean-Jacques Goldman, il y avait depuis longtemps une réelle demande de la part des utilisateurs. Classé 8 fois au premier rang des personnalités préférées des Français, 11 albums, 125 morceaux, pratiquement que des tubes, puisque Tu pars là-bas comme toi ou encore Je marche seul. Alors même si l'on sait que Jean-Jacques Goldman a toujours été un fervent défenseur du droit d'auteur, que la rémunération des artistes reste l'un des grands sujets débattus lorsqu'il s'agit du streaming, le chanteur ne s'est jamais publiquement exprimé sur le sujet, il ne s'est d'ailleurs jamais beaucoup investi sur le web. En tout cas, l'offre aujourd'hui moyennant abonnement, le catalogue est colossal et ravira les fans.
Et on peut parier que Goldman en streaming, ça va tout casser. De fortes intempéries en Haute-Corse ce matin, l'île Rousse notamment a été touchée, la pluie a causé quelques inondations. C'est l'exception à ce temps estival que nous annonce Elodie Calac.
Beaucoup de soleil au menu avec une exception pour l'extrême sud-est. Sur la Corse, on a encore des averses et des orages avec une préférence pour l'est de l'île. Des averses orageuses aussi, des Alpes vers l'intérieur de la Provence qui peuvent déborder vers le littoral. Attention, on peut avoir des quantités de pluie conséquentes en peu de temps. Côté thermomètre, ça monte. Pas moins de 24 degrés à Cherbourg, 28 à Lille, à Brest, 29 degrés à Paris, Strasbourg, Lyon, Ajaccio, 32 à Nantes, Bourges et Toulouse, 34 à Bordeaux ou à Nîmes. Le week-end s'annonce tout aussi estival avec du soleil, toujours un temps instable des Alpes à la Corse, mais avec des averses orageuses moins nombreuses, des températures chaudes pour la saison. Samedi, on dépassera souvent les 30 degrés, on atteindra même les 35 sur le sud-ouest et en basse vallée du Rhône.